Seigneur, que tu puisses continuer à le faire, Seigneur. Seigneur, que tu puisses toucher les cœurs, Seigneur. Et Seigneur, glorifier ton nom dans les vies, Seigneur. Amen. Il y a plein de bonnes choses qui ont déjà été dites ce matin. Et on a parlé de murailles. Et il y a quelque chose qui a été dit, que Alex a dit. Et c'est bizarre, c'est quelque chose qui m'a vraiment... Il y a que cette chose qui m'a touché, parce que l'histoire, je la connaissais. C'est un chrétien essayer de survivre. Ah, si je vous posais la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est bon? Beaucoup vont me dire, bah oui, avec la vie et ceci, cela, c'est normal que des fois les chrétiens essayent de survivre. Spirituellement, c'est totalement faux. Totalement faux. Un chrétien doit mourir. Et c'est ce dont je vais vous parler ce matin. Je vais vous parler des doctrines fondamentales de la Bible. C'est le point de départ d'une vie chrétienne. Si vous n'avez jamais connu cette chose, c'est même pas la peine de dire que vous êtes de Christ. Je vous le dis tout de suite. Je vais vous parler de la repentance. Il y a plein de choses qui sont dites, plein de définitions. Et on s'aperçoit, et je m'aperçois quand on discute avec les uns, avec les autres, qu'en fin de compte, les gens ne savent absolument pas ce que c'est que la repentance. Et certains n'ont jamais connu la repentance. Vous prenez un mort dans un cercueil, vous l'asseyez dans une église, l'image est exactement la même. Il y a des gens dans nos églises qui ne se sont jamais repentis. En Matthieu, chapitre 3, verset 11, c'est Jean-Baptiste qui parle. « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Personne n'est prêt à recevoir la parole de Dieu et à croire surtout à l'Évangile, à moins d'être aussi prêt à se repentir de ses péchés et à s'en détourner. Parce que la finalité de la repentance, c'est ça. Avant de rencontrer Jésus, Jean-Baptiste n'avait qu'un seul discours. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » En Matthieu, chapitre 3, verset 2, vous pouvez lire. Et je suis persuadé que si Jean-Baptiste avait continué dans cette parole, sans jamais montrer l'agneau de Dieu, ce message aurait été complètement imparfait. Mais il l'a montré, Jésus-Christ. Et il a dit « Celui qui vient après moi, dont je ne suis pas digne de porter ses souliers. » Quand Jésus parut, il s'empara exactement de la même réflexion, déclaration. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » En Matthieu 4, 17. Et quand il envoya ses disciples, on va voir ça en Marc, chapitre 6, verset 12. Je vais lire à partir du verset 10. « Puis il leur dit, dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent, ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. » Au verset 12, il y a déjà l'obéissance. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Vous savez que dans nos églises, la repentance est très peu prêchée. Très, très peu. Parce que ça met le chrétien vraiment devant sa condition. Et la condition du chrétien, c'est de mourir. Le chrétien qui ne meurt pas n'est pas en Christ. Le but ultime de la repentance, c'est faire mourir le moi. Quand le Saint-Esprit fut envoyé du ciel, on retrouve Pierre au jour de la Pentecôte, il a fait entendre exactement le même cri. Repentez-vous. Et c'est cette prédication qui a été le démarrage vraiment de quelque chose de merveilleux. Et ça, vous le lirez en acte 1. Repentez-vous. Mais avant de vous expliquer ce que c'est la repentance, j'ai déjà commencé par vous expliquer ce que n'est pas la repentance. Et là, j'appuierai sur les idées qu'on a chacun et que moi j'ai eues. Je vous témoigne que j'ai eu les mêmes idées, des idées complètement erronées. La première, c'est que la repentance n'est pas la crainte. C'est absolument pas la crainte. Il y a des gens qui disent « j'ai la crainte de Dieu » et ils se sont jamais repentis. Jamais. Beaucoup sont alarmés, terrifiés. Ils attendent, certains, qu'une frayeur s'empare d'eux en disant « ça y est, je suis saisi de l'esprit, je me repens ». Il y a plein de gens comme ça, il y a des matelots qui se sont trouvés dans une tempête incroyable, qu'ils ont crié à Dieu. La tempête s'arrête, à peine la tempête s'est arrêtée, les jurons et compagnie ont recommencé. Ces matelots sont tombés à nouveau dans leur travers. C'est la peur qui les faisait crier à Dieu. C'est absolument pas ce besoin de repentance. La repentance n'est pas non plus une impression. Vous savez, il y a une belle réunion, il y a un beau message d'annoncer, et puis, ah, je suis touché. Et puis on va voir le pasteur, on va voir l'ancien, on lui dit « voilà, j'ai ça sur mon cœur ». On le dit, on le témoigne. Mais on ne fait absolument pas demi-tour dans sa vie. Et en fin de compte, les choses deviennent, restent émotives. Il n'y a pas d'obéissance derrière ça. Il n'y a pas cette envie de changer. Oui, tu m'as parlé, j'ai envie de changer. Je veux te suivre. Et les choses que je viens de te témoigner n'existent plus dans ma vie. Je fais demi-tour dans ma vie. Il y a un pasteur à Baltimore qui a prêché à 900 prisonniers. 900 prisonniers. Ils pleuraient tous. Ils pleuraient tous. Ce pasteur était persuadé que si on avait donné la liberté à ces gens sur le champ, la plupart seraient retournés à leurs actions. Parce que la plupart pleuraient de la condition actuelle dans laquelle ils étaient, c'est-à-dire emprisonnés. Emprisonnés parce qu'ils avaient commis des fautes. C'est pour ça qu'ils pleuraient. Ils ne pleuraient pas pour le message qu'ils avaient reçu. Ils ne pleuraient pas sur leur condition de pécheurs. Mais ils pleuraient parce qu'ils étaient emprisonnés. La repentance n'est pas non plus le jeûne, parce que beaucoup pensent que jeûner et prier sauve. C'est faux. Ça donne aucunement l'impression d'avoir abandonné son péché. Vous avez des gens qui ont jeûné et prié pendant des années, mais chaque fois que les choses de leur vie arrivaient, ils continuaient dans leur péché. Comme dit souvent Daniel, les gens se sentent bien dans leur péché et on continue. Et pourtant, j'ai jeûné, j'ai prié. Encore une fois, un manque d'obéissance. La repentance n'est pas le remords. Ah, je suis pécheur. Oui, je viens d'entendre une prédication. Je suis pécheur, je suis sale, je suis ceci, je suis cela. Si vous lisez bien la parole, il y a quelqu'un dans la Bible qui a eu des remords. Il s'appelle Judas. Il y a eu des remords. Est-ce qu'il est allé voir Jésus à plat ventre en disant « Pardonne-moi de ce que j'ai fait ». S'il l'avait fait, Jésus l'aurait pardonné. Est-ce qu'il a fait Judas ? Il est allé voir les prêtres. Il a essayé d'expliquer qu'il s'était trompé. La finalité, c'était quoi ? Il s'est pendu. Il n'y a eu aucune repentance de Judas. Il était rempli de remords, mais il ne s'est jamais repenti. Je vais vous dire quelque chose qui va vous paraître incroyablement faux. La repentance n'est pas la conviction du péché. Vous pourrez être très bien convaincu de péché et ne jamais vous repentir. Il y a des gens qui sont sales, leurs habits sont sales. Mais si vous ne les mettez pas à la machine à laver, ils vont rester sales. Et au bout d'un moment, il va y avoir cette odeur sur vous. Et pourtant, on sait que nos habits sont sales. Comment on sait qu'on est pécheur ? On a cette conviction parce que Dieu nous l'a dit, tu es pécheur. Est-ce que j'ai obéi à la parole ? Est-ce que cette conviction a fait que j'obéis et je donne ma vie ? Je me repens, Seigneur, je te donne ma vie. Et je fais demi-tour dans ma vie. Prier n'est pas non plus la repentance. Vous pouvez prier des heures. Vous allez multiplier les vaines paroles. Multiplier les vaines paroles. Moi, je l'ai fait. J'ai multiplié les vaines paroles. Ça n'a rien apporté dans ma vie. Absolument rien du tout. Si, la satisfaction de prier. Et après, vous priez, vous lisez la Bible. Et si vous êtes mort ? Tout à l'heure, on parlait d'obéissance. Quand on lit la parole de Dieu, il faut lui obéir. C'est là où la parole de Dieu fera son œuvre. Vous pouvez lire la parole de Dieu comme un roman. C'est très bien, je lis un chapitre par jour. Oh, j'ai oublié hier, aujourd'hui je vais en lire deux. Et voilà. Et vous n'êtes pas sauvé. Vous n'êtes pas sauvé. Parce que la parole ne travaille pas sur votre cœur. Moi, j'étais des années avant que la parole travaille mon cœur. Et je vais vous expliquer ce par quoi le Seigneur m'a fait passer. C'est quelque chose de terrible. On peut crier à Dieu, mais crier et ne jamais se convertir. Jamais. Il y a certains qui disent « j'ai renoncé à un péché ». Et ils se disent, ben voilà, je suis sauvé, je me suis repenti. Je vais vous donner une image après. Un ivrogne qui cesse de boire, il n'est pas sauvé pour ça. Hein. C'est pas parce qu'on scie une branche d'un arbre que l'arbre est sauvé. Des fois, il faut le couper complètement. Vous entrez dans un bateau, il y a 4 voies d'eau, vous en bouchez une. Le bateau va sombrer parce qu'il y en a 3 autres. Il faut que les 4 voies d'eau soient comblées en même temps. C'est ça la repentance. La définition de la repentance, c'est, vous allez rire, c'est en fin de compte, en langage militaire, que les soldats disent demi-tour à droite. C'est demi-tour dans sa vie. C'est un réel demi-tour. Ça inclut plein de choses. Ça inclut plein de choses. Ça inclut l'obéissance. Ça inclut cette mort du moi. Le chrétien ne survit plus, il est mort en Christ. C'est là le départ de la nouvelle naissance. Et moi je vous dis que si vous n'avez pas connu ces choses-là dans votre vie, vous êtes mort aux yeux de Dieu. Je ne vous dirai rien d'autre. Si je dis autre chose, je suis anathème. Si vous n'avez pas connu cette repentance, ce demi-tour dans votre vie, ce n'est pas la peine. Retournez-vous, car pourquoi mourriez-vous? C'est une parole de Jésus. Peu importe, je vous le dis tout de suite, qu'un chrétien soit heureux ou malheureux avec ses péchés, qu'il souffre ou qu'il n'en souffre pas, parce que beaucoup vivent avec leurs péchés. Dieu ne peut pas lui faire grâce s'il n'y a pas cette repentance. C'est clair, la parole de Dieu est claire. La repentance est un changement d'esprit. C'est une détermination à changer. C'est l'obéissance à la parole de Dieu et rien d'autre. Si on prend la parabole du fils du vigneron en Matthieu 21, 28, 29, il y a le père qui va trouver son fils et lui dit « Aujourd'hui, va travailler dans ma vigne. » Je synthétise un peu. Il répond, son fils, « Je n'y peux point aller. » C'est-à-dire qu'il ne veut pas y aller. Mais après qu'il lui dit non, il réfléchit et il changea d'avis. Il s'est dit « Peut-être je n'ai pas parlé bien à mon père. » Il m'a demandé d'aller travailler. J'ai refusé. J'ai eu tort. Si l'histoire s'arrête là, si l'histoire s'arrêtait là, le fils est condamnable. Il ne s'est pas repenti, puisqu'il s'est dit « Oui, effectivement, j'ai mal parlé à mon père. » Mais il n'a pas obéi, il n'est pas allé. Si l'histoire s'arrêtait là, le fils a reconnu qu'il avait mal parlé à son père. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi. Il est allé travailler. C'est l'image exacte que Jésus donne de la repentance. C'est ça, la repentance. Je sais que j'ai péché. Je sais que je suis bon à rien. Mais j'obéis. Aujourd'hui même, j'obéis. Si quelqu'un dit par la grâce de Dieu, j'abandonne mon péché et je ferai désormais sa volonté, celui-là se repent. C'est la véritable conversion. C'est cette obéissance dont parlait Jeannette tout à l'heure. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Je reconnais que ma vie n'est pas bonne. Mais aujourd'hui, je décide de te suivre. Et quand je dis « je décide de te suivre », c'est-à-dire que tout le reste de ma vie, tout ce que j'avais, tout ce que je refuse qu'on touche, mes relations, tout, je les laisse de côté. Je les laisse tomber. Et rien que cette obéissance, là, comme a dit Jeannette tout à l'heure, va toucher toute notre vie complète. Parce que la suite du verset avec Jean-Baptiste, il viendra quelqu'un qui vous baptisera du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas fait la première phase, la repentance, Jésus ne viendra jamais vous baptiser du Saint-Esprit. Parce qu'il est bloqué. Il est bloqué. Il faut pas attendre de ressentir vivement nos péchés pour se repentir. Parce que si on lit la parole On n'a pas besoin que Dieu nous témoigne, et j'ai fait malheureusement cette expérience, on n'a pas besoin que Dieu nous témoigne de dire, voilà, ta vie n'est pas bonne, il faut la régler. C'est la parole sur notre cœur qui nous dit que nous sommes pécheurs. Et c'est la parole qui nous dit également, repens-toi. Jésus, à la femme adultère, il ne lui a pas dit, bon, tu vas prier pendant 54 heures, tu feras des ablutions, tu feras ceci, tu vas égorger 4 moutons. Va et ne pêche plus. Tout simplement. Il lui demandait simplement cette chose. Mais quand on dit simplement cette chose, ça sous-entend énormément de choses. Ça sous-entend déjà que le moi n'est plus présent. Ça sous-entend une obéissance à la parole de Dieu. Et je suis persuadé, la Bible ne nous le dit pas, mais je suis persuadé que cette femme est allée et elle n'a plus péché. Toutes les conversions qui se trouvent dans la Bible sont instantanées. Il n'y a pas de degré, il n'y a pas d'étape, il n'y a pas... Non, c'est instantané. La repentance et la foi, ça vient soudainement. On est saisi par la parole de Dieu. On lui obéit ou on ne lui obéit pas. Il y a des gens qui galèrent depuis des années avec leur moi, avec des problèmes. Comme a dit Jeannette, 99,9% des problèmes seraient déjà réglés s'ils avaient obéi rien que 5 minutes à la parole de Dieu. Dieu donne la force de se repentir. Il donne à l'homme de vouloir se repentir. Mais c'est Dieu qui peut faire que le pardon vient. Il y a des gens qui se sont pardonné des choses. C'est incroyable, hein ? On se pardonne des choses. Là, j'ai fait cette chose, oh, pff, c'est rien, c'était, j'avais des problèmes ce jour-là, puis bon, je ne le referai plus. Voilà, je me pardonne. Mais est-ce que vous pensez que Dieu inviterait tout le monde à se repentir si c'était le cas ? Une chose qui est essentielle, c'est que la vraie repentance porte des fruits. Et les fruits, je ne vais pas vous apprendre quelque chose aujourd'hui, c'est la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance, une vie nouvelle. Vous n'êtes plus la personne que vous étiez hier. Vous êtes une nouvelle nature en Christ. Pas une nouvelle nature selon le monde, mais une nouvelle nature en Christ. Parce que vous avez obéi à sa parole. Si nous avons fait du tort à quelqu'un, on peut demander pardon à Dieu, oui. Mais Dieu nous demande d'aller au-delà de la demande de pardon. C'est d'aller voir cette personne et de lui dire, je demande pardon pour le mal que je t'ai fait. Ça, c'est de la repentance. Ça, c'est de la repentance. Et Dieu, c'est ce qu'il attend dans nos propres vies, qu'on lui dise ces choses, qu'on obéisse. La repentance, elle n'est absolument pas naturelle. Un homme seul ne peut pas se repentir, c'est faux. Si des gens ont cette idée-là dans la tête ce matin, c'est totalement faux. Il faut obligatoirement que la parole de Dieu ait fait son effet sur son cœur et que cette personne lui obéisse. Je sens que je suis sale parce que tu me le dis et aujourd'hui même, je choisis de t'obéir. Et on le fait. Tout ce qui animait notre vie, Dieu va nous aider à vivre une vie sainte. Parce qu'il sait que notre nature, de notre nature, on est incapable de vivre une vie sainte. Si la parole n'a pas fait son effet sur votre cœur, si vous n'avez pas eu cette repentance, est-ce qu'il y a eu un moment dans ma vie où j'ai pu dire « moi » comme Jean-Baptiste a dit « moi, je vous baptise » ? Est-ce qu'on a su le dire ?« Moi, mais lui, moi je suis incapable, je suis rien, mais lui est capable dans ma vie. » On ne peut pas comprendre le baptême de l'Esprit sans en arriver là. C'est impossible. C'est impossible. Une prière, j'ai marqué quelque chose. Moi, je suis à bout. Je ne peux plus rien faire. Écoutez bien. Je suis la cause de mes soucis. En fin de compte, c'est arriver à ne plus être victime. C'est ça. C'est arriver à ne plus être victime. Si je suis un voleur aujourd'hui, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Si je suis pédophile, bah c'est parce que je n'ai pas été aimé par mes parents. Si je suis ivrogne, bah c'est parce que j'ai plein de problèmes dans ma vie. C'est faux. C'est totalement faux. La repentance, c'est dire, le problème, c'est moi. Le problème, c'est mon moi. C'est ça la repentance. Et rien d'autre. Dieu ne va pas accuser les circonstances de votre vie lorsque vous serez devant lui. Il va te dire, Pascal, c'est de toi que je parle. C'est pas de tes parents. C'est pas de tes amis. C'est pas de l'accident qui a fait que ceci, cela. Il va te dire, mais Pascal, c'est de toi que je parle. De toi ? Quand on a parlé du moi, il faut savoir que lui intervient. Et il fait ce que lui seul peut faire. Il nous lave. Imaginez l'image que je vous ai donnée tout à l'heure. Vous êtes avec des habits sales. On vous dit, mais attends, t'es sale. Si vous ne prenez pas la mesure d'enlever vos habits et de les mettre à la machine à laver, vous serez toujours sale. Et ça, Jésus est capable de le faire. Prendre vos habits que vous allez lui donner et les laver. Parce qu'il l'a déjà fait. Il l'a fait avec son sang. Est-ce que je suis prêt pour sa venue ? Jésus ne peut absolument pas intervenir tant qu'il reste quelque chose en travers de sa route. En bien ou en mal ? En bien, c'est toutes les choses qu'on habille de religiosité. Et en mal, c'est nos péchés qui restent. Jésus ne peut pas intervenir tant qu'on a toujours ça dans notre vie. L'un comme l'autre, c'est lié au moi. S'il vient, est-ce que je suis prêt à projeter sur lui-même ma vie ? Est-ce que je suis prêt à le faire ? Est-ce que je suis prêt à lui déclarer mes fautes ? Est-ce que je suis prêt à faire demi-tour dans ma vie ? Parce que ça inclut beaucoup de choses. Peut-être qu'on va perdre des amis. Peut-être qu'on va perdre des gens de sa famille. Parce qu'on ne veut plus vivre comme on vivait avant. Est-ce que je veux ça ? Est-ce que je veux perdre mon travail ? Parce que je n'accepte plus des choses sales qui sont faites ou dites. La corruption, le mensonge. Est-ce que je suis prêt à perdre ces choses? Si on est prêt, c'est là justement qu'il va agir. Et il va agir, je peux vous le dire, avec une puissance phénoménale. Si je me reconnais coupable, là il agit. Mais si je me crois sans reproche, il s'éloigne. Ça c'est clair. D'un côté, je suis en train de déclarer à Jésus, j'ai besoin de toi. Et de l'autre côté, bon ça va, je suis assez propre pour que je n'ai pas besoin de toi pour l'instant. C'est ça que je suis en train de déclarer. Le fait de ne pas obéir à la parole de Dieu, c'est ce que je suis en train de déclarer. Exactement. La repentance n'apporte pas tant la conviction du péché que le sentiment d'une incroyable indignité. Quand je me repens, je sens que je suis totalement incapable de m'en sortir. Donc vous voyez, là, c'est là où on touche à quelque chose de fantastique. On touche au moi. Je suis incapable de m'en sortir. C'est pas la parole de Dieu, c'est pas les prières qui vont nous en sortir, je vous le dis tout de suite. Quand je vous dis la parole de Dieu, entendez bien ce que je suis en train de vous dire. C'est pas le fait de lire la parole de Dieu qui va nous sortir de notre état de non-repentant, notre état de mort. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui va nous sortir de cet état de mort. Si on est touché par la parole de Dieu et qu'on se repent, qu'on laisse cette parole travailler, qu'on se repent, qu'on fait demi-tour dans notre vie, on connaîtra la nouvelle naissance. Est-ce que je me suis repenti ainsi? Parce que Jean-Baptiste, à un moment donné, il dit « Je ne suis pas digne de porter ces souliers. » Est-ce que ce matin, on est simplement digne de nous mettre, d'être devant Dieu? Est-ce qu'on se sent digne ce matin? Je ne veux pas de réponse. Réfléchissons simplement. Est-ce que ce matin, je me sens digne à être devant Dieu? Dieu ne voit les chrétiens qu'au travers de Jésus-Christ. Tous ceux qui ne seront pas vus au travers de Jésus-Christ subiront la colère de Dieu. Quand je dis « vu au travers de Jésus-Christ », c'est-à-dire que les chrétiens, c'est ceux qui ont Jésus dans leur vie. S'il n'y a pas de repentance réelle dans nos vies, Christ ne sera pas dans nos vies. Tout le reste, c'est de l'animation. C'est « je me sens bien parce que je vais à l'église, je me sens peut-être meilleur que les autres ». Alors que ma condition est aussi triste, et voire même plus triste que les autres, parce que je suis au courant de la loi. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jean ne parle pas ici du baptême du Saint-Esprit comme d'une expérience, mais il parle de quelque chose de réellement vécu. Comment vous pouvez remplir un tiroir si le tiroir est déjà plein? Comment on peut remplir un tiroir si le tiroir est déjà plein? La seule condition pour être baptisé du Saint-Esprit, c'est de reconnaître devant Dieu son indignité. C'est la seule condition. C'est la seule condition et de dire surtout que ma vie jusqu'à présent, c'était rien. C'était une vie infidèle, une vie sale, une vie remplie de tout sauf toi, parce que j'en suis incapable. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de t'obéir. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire ta volonté. En 2003, j'étais comme certains dans l'église depuis 91, je crois, un truc comme ça. Depuis 91, 90. Depuis 90, j'étais dans l'église. Depuis 90, j'étais assis parmi vous. Depuis 90, j'étais chrétien. Je me suis fait baptiser en 91. Tout va bien, j'étais sauvé. Je croyais que j'étais sauvé. Je croyais. J'ai demandé à Dieu, j'ai témoigné de ça à quelqu'un, j'ai témoigné à Dieu de vivre des expériences. J'ai vécu des expériences, j'ai hurlé à Dieu. J'ai dit un jour, Seigneur, en 97, vous voyez, tout ça me revient. J'ai dit, Seigneur, fais comme si tu n'étais absolument plus dans ma vie. Des fois, on prie, on se dit, mais le Seigneur, il n'écoute pas. Je suis à la présent à la réunion de prière et puis il n'écoute pas nos prières. Il m'a écouté, il l'a fait. J'ai hurlé à Dieu. Hurlé. C'est incroyable, ce vide. Je me suis dit, mais comment le monde peut vivre sans Dieu? Ah, vous allez me dire, oui, mais bon, ça n'a pas provoqué ta repentance. Ben, j'ai dit non. Non, absolument pas. J'ai continué à être à l'église, à être assis. Mais d'un seul coup, on m'a demandé de faire des prédications. Je faisais des prédications. J'amenais la parole de Dieu, tout fier. Et un jour, en 2003, Dieu y a dit, j'en ai ras-le-bol. Pascal, tu me gonfles. Non, mais rigolez pas. Parce qu'il m'a mis en prison, en fin de compte. Et ce que je vous dis, c'est vrai, j'ai été placé en garde à vue. Et dans le même état que Jésus-Christ, incapable d'expliquer que j'y étais pour rien dans cette affaire. Incapable. Et du milieu de ma cellule, j'ai entendu une voix claire et nette qui m'a dit, règle ta vie. J'avais deux choix. Bon, il faut dire que la situation, après, bon, ils se sont aperçus que c'était une cabale. J'aurais pu porter plainte, je ne l'ai pas fait. Et j'aurais pu très bien, à l'issue de cette journée, rentrer, puis bon, tiens, Dieu m'a parlé. Puis faire ma petite prière dans mon coin. C'est absolument pas ce que j'ai fait. Je suis allé voir Kit en ce temps-là. Ça a duré pratiquement 3 heures. Je l'ai rencontré rue de Côte-Saint-Hilaire. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai déversé ma vie. Et c'est incroyable parce que j'ai déversé des choses qui étaient encore présentes et que je ne savais même pas. Et ce qui est incroyable, j'aurais très bien pu faire ça et dire, ça y est, je me suis repenti. C'est que j'ai pris la décision d'obéir. J'ai obéi à Dieu. Il y a plein de choses qui sont parties. Plein, plein, plein. J'ai été libéré. Mais j'ai obéi. J'ai obéi. Et je suis persuadé que Dieu peut faire cela ce matin avec vous. Il peut parfaitement faire cela avec vous. Parce que Dieu voit notre cœur. Je suis persuadé que Dieu avait vu mon cœur, il voyait, mais il savait que j'étais incapable. Incapable de le dire, parce que j'avais un moi, un ego énorme, je peux vous dire, ça c'est clair. Mais il m'a fait poser les genoux à terre. Parce que j'ai pris conscience que j'étais pas à lui, j'étais pas à Christ. Je m'asseyais au milieu de l'église, je faisais des magnifiques prédications. Il n'y avait rien. Rien du tout. Je devais vous parler de l'obéissance. Mais je suis persuadé que si on réfléchit chacun ce matin à notre condition, est-ce que j'ai vécu cette repentance? Est-ce que je me suis mis devant le Seigneur et de dire je n'accepte plus ma condition? Aujourd'hui même, je veux faire ta volonté et je fais ta volonté. Si ce n'est pas ça dans nos vies, je suis désolé de vous le dire, vous êtes mort aux yeux de Dieu. Si on n'a jamais connu ça dans nos vies, on est mort aux yeux de Dieu. Si on n'obéit pas à quelque chose qui était clair dans nos vies, à un moment donné, si je n'obéis pas à ce qui a été dit dans ma vie, je suis mort. Rien ne pourra nous sauver. Les plus belles explications devant Dieu ne pourront pas nous sauver. Parce qu'il vous dira, et il me dira, « Mais Pascal, j'ai donné mon fils pour toi. Son sang a coulé pour toi. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ? Je t'ai parlé tout le long de ta vie, mais tu n'as jamais obéi. » C'est la deuxième partie dont je voulais parler, l'obéissance, qui est très importante. Obéir à la parole de Dieu. Il y a des gens qui disent « Oui, mais bon, je ne sais pas comment faire la volonté de Dieu. » Commence à obéir. Et tu feras la volonté de Dieu. Ça, c'est clair. Obéir à Dieu, ce n'est pas faire tout et n'importe quoi. On peut annoncer l'évangile parfaitement, évangéliser sans jamais avoir été sauvé. Toutes les révélations de Dieu sont lettres mortes dans notre cœur à partir du moment où il n'y a aucune obéissance. Toutes les bénédictions de Dieu sont lettres mortes. Parce que vous le savez, à partir du moment où je n'obéis pas à la parole de Dieu. Pourtant, Dieu m'a montré que même pour ma vie, il m'attendait. Parce qu'il a un amour pour chacun d'entre nous dont on ne peut même pas imaginer. Il met tout en œuvre, tout. Tout en œuvre, il met des circonstances dans nos vies, il met des gens devant nous. Et pourtant, on n'obéit pas. On n'obéit pas. On parlait de Job, je ne sais plus avec qui. Cette personne me dépeut. Mais je dis non, je suis désolé, mais Job, si vous lisez bien entre les lignes, mais Job, il avait une idée de Dieu qui était complètement sans lieu. Sans lieu de Dieu. Et pourtant, on nous le décrit comme quelqu'un de fidèle, comme quelqu'un... Oui, oui, oui. Mais pourquoi Dieu dit à Job à la fin, « Mais où étais-tu quand j'ai créé le ciel et la terre ? Où étais-tu ? » Il était en train de dire à Job, « Hé, descends de ton étage, là. Je ne suis pas ce Dieu dont tu parles. Il a dit, j'ai tout créé, j'ai tout fait. Tu es le fruit de ce que j'ai conçu. Et c'est à ce moment-là, quand Job a reconnu qu'effectivement, il n'avait pas une vraie vision de Dieu, que tout est revenu dans sa vie, tout. Il s'est repenti d'avoir eu cette vision de Dieu. Et tout est revenu au centuple dans sa vie. Je vais m'arrêter là. Seigneur, je te loue pour ta parole, Seigneur. Seigneur, je te loue parce que tu as parlé ce matin à travers de notre sœur, de nos deux sœurs, Seigneur. Seigneur, que tu puisses saisir ce matin par ton esprit. Et rien d'autre, Seigneur, que rien ne puisse nous éloigner de ce qui a été dit, de cette vérité sur la repentance. Seigneur, enlève toutes les idées préconçues sur la repentance. Que ton esprit ouvre les consciences, que ton esprit ouvre les intelligences à savoir aujourd'hui si je suis mort à toi ou mort en Christ. Seigneur, tu veux chacun ce matin nous ensevelir et renaître de nouveau. Mais tu attends une chose, c'est que nous puissions nous mettre devant toi, nus, complètement nus, et de déclarer que nous sommes incapables de vivre autrement que par toi. Que notre condition, ce que nous sommes aujourd'hui, est dû à notre nature, à notre moi qui est toujours là. Tu vas venir, tu vas libérer et tu vas baptiser de ton esprit, parce que c'est ta parole qui le dit. Seigneur, qu'il en soit ainsi, par le nom de Jésus. Amen.